Quand, dans une vente aux enchères, un article de valeur est bon marché, les acquéreurs intéressés ne manquent pas. C'est même la foule. Mais dès que les enchères montent, leur nombre diminue rapidement. Et si le prix demandé continue à grimper, très vite, on compte sur les doigts de la main ceux qui restent à miser. Pareillement, la quasi-totalité des croyants se disent prêts à rester fidèles à leur Seigneur, à condition que le coût ne soit pas trop élevé. Mais s'il faut sacrifier ses habitudes, ses envies ou ses biens, le camp des fidèles devient vite clairsemé. Il faut savoir que Dieu ne se soucie pas tellement de notre petit confort, mais que par contre, il est très intéressé par ma sanctification. Il désire que je marche au même pas que lui et main dans la main, comme Enoch. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a mentionné un certain nombre de personnages de l'Ancien Testament qui ont fait des prodiges parce qu'ils faisaient entièrement confiance à l'Éternel. Mais la vie des hommes de foi ne se termine pas toujours en apothéose, par une grande victoire militaire ou par un miracle. Je continue à lire dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Des femmes ont vu leur mort ressuscitée pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Verset 36. On sait que le prophète Jérémie a subi des moqueries et le fouet, c'est-à-dire une torture à la fois mentale et physique. Il a été enchaîné et emprisonné, mais il n'est pas le seul à avoir ainsi souffert. D'ailleurs, d'une manière générale, être prophète en Israël était une profession à haut risque. Je lis un passage. Lorsque la reine Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant de groupes de 50 dans des grottes et en leur procurant à manger et à boire. Cet Abdias, qui était l'intendant du palais du roi Akab, révérait l'Éternel, et pour cette raison, il avait utilisé sa position de haut fonctionnaire pour secourir le plus de prophètes possible au péril de sa vie. Cet exploit rappelle le dévouement sans précédent de ceux qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont tout risqué pour protéger des Juifs. Je continue l'Épître aux Hébreux. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Verset 37. Des gens ordinaires ont été mis à mort par un despote parce qu'ils voulaient rester fidèles à l'Éternel et à leur famille selon le droit de la loi de Moïse. C'est le cas d'un certain Naboth auquel je m'intéresse parce que, comme moi, il faisait partie du commun des mortels, sauf qu'il avait le malheur de posséder une vigne qui faisait l'envie d'Akab, roi d'Israël, et monarque particulièrement mauvais. Pourtant, il fait figure d'ange à côté de sa femme Jézabel, qui était une teigne poisseuse de premier ordre. Idolâtre et de tempérament masculin, fille du roi de Sidon, ville de Phénicie, elle adorait Baal, divinité masculine, et Astarté, divinité féminine. Elle subjugua son mari, faible et irrésolu, qu'elle transforma en adorateur de faux dieux comme elle. Elle monta de toutes pièces une histoire saugrenue et avec l'aide des officiels corrompus d'une ville, elle fit exécuter l'un de leurs administrés, un pauvre homme qui souhaitait seulement rester fidèle aux prescriptions que l'Éternel avait données concernant les héritages. Voici ce qui arriva. Naboth, un habitant de Jizréel, possédait une vigne à Jizréel près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab fit à Naboth la proposition suivante. « Cède-moi ta vigne, je voudrais en faire un jardin potager, car elle est juste à côté de mon palais. Je te donnerai en échange une vigne meilleure ou, si tu préfères, je t'en payerai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab « Que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres. » Fin de citation. Sur ces entrefaites, Achab est rentré chez lui et a boudé, ce qui a conduit sa femme à passer à l'action. Je lis le texte. Elle écrivit des lettres au nom d'Achab, les scella du sceau royal et les fit porter aux responsables et aux magistrats de la ville où demeurait Naboth. Dans ces lettres, elle leur ordonnait « Proclamez un jour de jeûne, installez Naboth au premier rang de l'assemblée et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Puis menez-le en dehors de la ville et tuez-le à coups de pierre. » Les gens de la ville de Naboth, les responsables et les magistrats, concitoyens de Naboth, obéirent à l'ordre de Jézabel et firent ce qu'elle demandait dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. C'est scandaleux, une infamie. Certes, le roi Achab et sa reine n'ont pas emporté leurs méfaits au paradis, car Dieu les a châtiés comme ils le méritaient, mais ça n'a pas ramené à la vie le pauvre Naboth. Certains ont été sciés en deux, dit l'auteur. Selon la tradition, le prophète Ésaïe aurait été placé à l'intérieur d'un tronc d'arbre creux, puis scié en deux par Manassé, un roi de Juda particulièrement méchant, idolâtre et cruel. Certains monarques israélites étaient pires que les Césars romains. En Israël, non seulement le pouvoir politique était corrompu, mais les responsables religieux les devançaient. D'ailleurs, en son temps, Jésus leur a dit « Malheur à vous, parce que vous édifiez des monuments funéraires pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués, vous montrez clairement par là que vous approuvez ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est bien pour cela que Dieu, dans sa sagesse, a déclaré « Je leur enverrai des prophètes et des messagers ». Ils tueront les uns, ils persécuteront les autres. » Et ailleurs, Jésus annonce le jugement de la nation juive et de Jérusalem pour que « retombe sur vous, dit-il, le châtiment qu'appelle le meurtre de tous les innocents, depuis celui d'Abel, le juste, jusqu'à celui de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel du sacrifice. » Fin de citation. Tout ce que nous savons de ce Zacharie est qu'il a été assassiné à Jérusalem. « Ah, Jérusalem, Jérusalem !» a dit Jésus. « Toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. » Je continue maintenant l'épître aux Hébreux. « D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux, dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. » Versets 37 et 38. C'est par la foi que les croyants fidèles sont délivrés de leur détresse ou qu'ils reçoivent la force dont ils ont besoin pour supporter les épreuves. Dieu, qui peut évidemment délivrer ses enfants de toute adversité, désire souvent qu'ils apprennent à persévérer malgré leurs souffrances quand il fait sombre le jour et que les nuits sont interminables. À des croyants qui subissaient des persécutions de plein fouet à cause de leur foi, l'apôtre Pierre écrit « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous. » Car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Le diacre Étienne n'avait décidément pas froid aux yeux quand il a dit aux chefs religieux « Ô vous, hommes obstinés qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit-Saint ?» Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste, et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. » Il va sans dire que les religieux n'ont guère apprécié ces remontrances et que ça s'est mal terminé pour Étienne. Plus loin, le texte dit, « D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le tuèrent à coups de pierre. » Tous les apôtres de Jésus ont été persécutés à cause de leur foi, et tous ont subi une mort violente, sauf Jean qui a été déporté sur une île. Quand Paul s'est converti, Jésus a dit « Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi ». Chose promise, chose due. Dans une de ses lettres, l'apôtre fait un premier bilan de sa vie et constate que les persécutions le suivaient à la trace. Il écrit « J'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups, plus souvent, j'ai vu la mort de près, 5 fois j'ai reçu des juifs les 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer, souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères, j'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. » Fin de citation. Et à des croyants persécutés pour leur foi, Paul dit « Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » À son disciple Timothée, il écrit « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. » Comme un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. » Fin de citation. Quand Paul et Barnabas firent ensemble leur tournée missionnaire, le texte dit qu'il fortifia les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi, car, leur disait-il, « c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Malgré toutes les détresses qu'il a connues, la philosophie de Paul n'était pas contre mauvaise fortune, bon cœur. Car pour lui, c'était un privilège de souffrir pour Jésus. En effet, il écrit « J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Et juste avant d'être exécuté par Néron, Paul écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. » Comme l'apôtre Pierre, Paul pouvait dire que Dieu a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Fin de citation. Après avoir énuméré un certain nombre de personnages de l'Ancien Testament qui se sont distingués par leur foi, l'auteur fait une liste d'une 12 de différents types de persécutions qui furent le lot des fidèles du Seigneur. Parmi celles-ci, on trouve le bannissement, un traitement que les lecteurs hébreux fidèles avaient déjà subi, puisque, plus tôt dans l'Épître, l'auteur leur a dit « Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, car vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. » Aujourd'hui encore, des gens se font éjecter de leur foyer et évincer de leur pays à cause de leur foi. Mais, en passant, l'auteur fait la remarque charmante que le monde n'était pas digne d'avoir la compagnie de ses fidèles du Seigneur. Les croyants à qui on inflige des souffrances ressusciteront et seront récompensés pour leur foi, mais leurs bourreaux seront jugés pour l'éternité. À travers les siècles, les Juifs ont toujours été la cible privilégiée des persécuteurs tortionnaires. Le Moyen-Âge a été une période particulièrement difficile pour eux, car on leur en voulait seulement d'exister. Et quand il arrivait un malheur national, ils faisaient régulièrement office de bouc émissaire. Puis il y a eu les pogroms orchestrés par les tsars, ces pratiques barbares qui consistaient à massacrer toute la population de villages juifs fut abolie par les bolcheviks. Mais la chasse aux juifs fut officiellement reconduite par les nazis et en grande fanfare dans ce qui s'appelle la Kristallnacht. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, des milliers de familles et d'entreprises juives furent saccagées, des dizaines de milliers de personnes déportées et plus de 200 synagogues détruites. Je continue le texte. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Verset 39. Les fidèles du Seigneur, qui sous l'ancienne alliance ont souffert à cause de leur foi, vivaient d'espérance car ils avaient bien peu de connaissances concernant le salut de Dieu, la forme qu'il prendrait, comment et quand il surviendrait. Mais ils avaient une confiance inébranlable en l'Éternel et ils savaient qu'un jour, Dieu ferait le nécessaire pour les racheter et les récompenser. Ils n'ont pas reçu ce que Dieu leur avait promis en argent comptant, mais comme l'auteur l'a déjà dit un peu plus tôt dans ce chapitre, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ces héros de la foi croyaient en l'accomplissement ultime des promesses divines, mais ils étaient loin d'avoir nos connaissances dans ce domaine, car c'est seulement dans le Nouveau Testament qu'un coin du voile est levé. Au travers des siècles, la grande promesse de Dieu était la venue du Rédempteur, le Messie, et l'établissement de la Nouvelle Alliance qui rendrait les croyants justes et permettrait l'établissement du royaume sur terre avec à sa tête le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'apôtre Pierre écrit: ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. La majorité des héros de l'Ancien Testament, ce qui inclut tous les prophètes, ont eu des vies très mouvementées. Parmi eux, certains ont remporté des victoires ou étaient sauvés de la mort, mais d'autres ont dû supporter de terribles épreuves. Cependant, aucun d'entre eux n'a reçu ce que Dieu leur avait promis parce que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Verset 40. Tous les hommes sont solidaires les uns des autres et il en est de même des croyants. C'est l'intention de Dieu d'accorder le salut à tous ceux et celles qui ont placé leur foi en lui, indépendamment de l'époque où ils ont vécu. Mais c'est ensemble que tous les rachetés de tous les siècles hériteront les promesses et la vie éternelle et entreront dans le royaume du Messie, que celui-ci soit terrestre pour les saints de l'Ancien Testament ou céleste pour les membres de l'Église du Christ. Ce que Dieu avait prévu de meilleur pour nous est la nouvelle alliance qui corrige toutes les imperfections de l'ancienne et grâce à laquelle la perfection est désormais possible, du moins en puissance, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit dans le cœur du croyant. Cela dit, en ce bas monde, dans la réalité du quotidien, la perfection n'existe pas et ne se réalisera que dans l'éternité. L'argument de l'auteur qui s'adresse à des Hébreux, ne l'oublions pas, est que leur situation spirituelle présente est bien supérieure à celle de ceux qui étaient sous l'Ancien Régime, car alors la perfection n'était tout simplement pas envisageable parce que la loi et les rites lévitiques rappelait sans cesse la présence du péché qui, au mieux, était couvert, mais jamais entièrement effacé. De toute manière, il n'était pas possible aux fidèles de l'Ancienne Alliance de parvenir à la perfection, car avant la venue du Christ, le salut était une espérance future qui reposait sur l'œuvre expiatoire qu'il accomplirait sur la croix. Aujourd'hui, par contre, le salut repose sur ce que le Christ a réalisé. Alors que la foi des anciens anticipait la promesse, celle des croyants actuels atteste un fait historique vieux de 2000 ans. Cela dit, ceux qui ont marché avec Dieu dans les temps reculés n'étaient pas des croyants de deuxième classe. Que ce soit Abel, Hénoch, Noé, Abraham et les patriarches, ceux de l'ancienne alliance, qu'il s'agisse de Rahab, des différents juges qui ont été cités, David, Daniel et ses compagnons, tous ces hommes et femmes étaient des justes parce que, au lieu de dépendre d'eux-mêmes et de s'appuyer sur leur propre force ou sagesse, ils avaient placé leur confiance dans la parole de l'Éternel et choisi de dépendre de lui pour surmonter leurs difficultés. Parce que certains ont manifesté une foi à toute épreuve, l'auteur nous les donne en exemple. En effet, même si nous avons bien davantage de lumière et de connaissances que les fidèles d'antan, ces derniers nous parlent encore par la façon dont ils ont relevé les défis que Dieu leur a lancés. Les personnes citées dans le chapitre 11 se sont distinguées par leur foi qui a été éprouvée et prouvée dans le temps. Lorsque quelqu'un dit avoir mis sa confiance en Jésus, c'est certainement une occasion de se réjouir, mais il faut que cette foi nouvelle soit testée, non pas pour essayer de la renverser, mais afin d'établir son authenticité. Croire aujourd'hui, c'est bien, mais persévérer et croire encore dans 3 ans ou 30 ans, c'est bien mieux.